Haïti et des Amériques avec vous, Mayol de Charon, bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à tous et bienvenue sur RFI.
Édition spéciale.
Mayol de Charon.
Et à la une de cette édition spéciale en Haïti, nous serons dans un instant dans la ville des Cayes, au sud-ouest du pays, proche de l'épicentre qui a frappé Haïti. Samedi, les habitants tentent toujours de secourir les blessés. L'hôpital est saturé. Nous ferons un point donc sur la situation après la nuit et à l'approche de la tempête tropicale Grace avec notre correspondante sur place, Amélie Baron. Frédéric Thomas, docteur en sciences politiques, sera notre invité, spécialiste de l'organisation humanitaire dans le pays. Il répondra à nos questions. Et puis, nous terminons cette édition avec, bien sûr, le journal des Outre-mer avec vous, Benoît Ferrand, et la Martinique qui commémore aujourd'hui le 16e anniversaire du crash d'un avion de la West Caribbean au Venezuela.
C'était le 16 août 2005, crash qui avait fait 152 tués, 160 victimes, dont 152 Martiniquais. Nous ferons le point sur les suites judiciaires du drame 16 ans après.
Merci Benoît Ferrand et à tout à l'heure. Et le bilan s'alourdit donc en Haïti deux jours après le puissant séisme de magnitude 7,2 qui a frappé le sud-ouest du pays. Au moins 1300 personnes sont mortes, 5700 ont été blessées selon la protection civile haïtienne. Au Cay, ville proche de l'épicentre du séisme, à près de 160 km de la capitale haïtienne, la course contre la montre continue pour tenter de sauver des décombres d'éventuels survivants. Le principal hôpital de la ville est saturé par l'afflux de blessés. Reportage de notre correspondante à Haïti, Amélie Baron.
Au service des urgences de l'hôpital de l'Immaculée Conception, le docteur Titus Antoine Junior veille à chaque patient qui s'entasse dans les petites salles surchargées, certains assis sur une chaise, d'autres allongés à même le sol.
On travaille depuis hier, mais là maintenant on gère bien la situation, bien qu'on a plus de personnel avec nous aujourd'hui. Donc les choses avancent très bien, mais le seul problème qu'on a, on a tellement de personnes qui viennent là maintenant, donc c'est mon Dieu pour nous.
La plupart des blessés que vous voyez arriver, ce sont comme cette dame, des fractures, des plaies ouvertes?
On a des fractures ouvertes, on a des fractures fermées, on a des troubles crâniens, on a toutes sortes de fractures. Et on a non seulement des personnes qui ont des pathologies qu'ils ont après le séisme et ils ont des comorbidités, c'est-à-dire qu'ils ont des pathologies qu'ils avaient avant, comme des diabétiques connus, des hypertendus connus, donc on fait les deux à la fois.
Et ces très nombreux blessés qui restent ensuite hospitalisés occupent chaque espace disponible sur la cour de l'hôpital, car face au traumatisme du séisme et face aux répliques, ils ont encore peur de rentrer à l'intérieur des bâtiments. L'énorme défi est qu'avec l'approche de la tempête tropicale Grace, il risque de pleuvoir sur l'ensemble d'Haïti et donc sur les zones affectées par le séisme. Amélie Baron, Les Cayes, RFI.
Et nous retrouvons donc notre correspondante sur place, Amélie Baron. Au Cay, quelle est la situation sur place ?
Hormis les trois grands axes principaux, toutes les rues des Cayes étaient entièrement bloquées ce matin car les habitants traumatisés ont tous dormi dehors. Le risque des répliques est permanent et à tout instant, des bâtiments lourdement endommagés pourraient s'effondrer. Sur la route qui mène à Port-Salut, les maisons plus simples, sans étage, ont pour la plupart résisté, mais ça n'empêche que les habitants ont passé la nuit à l'extérieur sur de simples draps avec parfois une bâche plastique au-dessus de leur tête en guise d'abri. Ce sera une bien maigre protection face aux potentielles pluies torrentielles qui s'annoncent avec la tempête Grace, qui n'est plus une tempête mais une dépression. Mais ce sera de toute façon tragique pour les sinistrés du séisme. Des habitants à qui j'ai parlé qui sont abattus et qui ne savent pas quoi faire face à cette nouvelle catastrophe qui leur arrive. Ils s'en remettent à Dieu car ils n'attendent pas grand-chose de l'État ou de l'aide étrangère. Et un signe qui ne trompe pas, les marchandes informelles commençaient ce matin à installer les fruits, les légumes, les noix de coco qu'elles cherchent à vendre. Les habitants dans le sud-ouest n'ont pas le luxe de s'apitoyer trop longtemps. La dure vie de leur quotidien n'attend pas.
Les hôpitaux et les centres de santé sont débordés. On l'a entendu tout à l'heure, vous étiez à l'hôpital de Port-Salut au Cay tout à l'heure.
À l'hôpital de Port-Salut, tous les blessés sont sur la cour. Le personnel que j'ai rencontré avec quelques infirmières et une sage-femme notamment m'explique qu'elles font leur possible pour prendre en charge tous ces blessés, des personnes avec des traumas, des fractures. Il y a eu aussi une femme qui était enceinte de plusieurs mois qui a perdu son bébé sous le choc de la secousse sismique. Donc toutes ces personnes sont dans des conditions très précaires, allongées, parfois même le sol, donc en extérieur. Elles ne veulent pas évidemment rentrer dans les bâtiments car elles ont peur des répliques, elles ont peur des dalles de béton. Mais le problème, c'est que donc elles pourraient, ces personnes, être victimes des pluies torrentielles qui pourraient commencer dès ce soir avec la dépression tropicale Grace. Rentrer sous des dalles de béton ou subir les intempéries sous la pluie, c'est le dilemme impossible qui se pose aujourd'hui dans l'hôpital de Port-Salut. Il y aurait quelques tentes, la sage-femme attend l'installation et l'arrivée de quelques tentes, mais elles ne s'enfuiront pas et donc certains devront se contraindre à rentrer dans des bâtiments en dur alors que le traumatisme vraiment de la secousse de samedi matin est dans les esprits.
Merci Amélie Baron, correspondante de RFI Haïti. La situation en Haïti qui est donc aussi suivie de près par la presse nord-américaine. Bonjour Arim.
Oui, bonjour, bonjour à tous.
Et on y apprend par exemple qu'à Jérémie, une ville de 31 000 habitants, au moins 400 familles passent leur nuit dehors car leurs habitations ont été détruites.
Oui, c'est un reportage allié dans le Washington Post. Le Washington Post qui a pu joindre le maire de Jérémie. Selon Claude Harry-Miller, la ville et ses environs commencent à manquer d'eau potable et de médicaments. L'hôpital Saint-Antoine est complètement saturé, écrit le journal. Il manque des bouteilles d'oxygène, des seringues et des masques. Toujours d'après le maire, des bénévoles ont rejoint des équipes de secours sur place, mais jusqu'à présent, les autorités de Jérémie restent sans nouvelles des villages plus isolés du département. Leurs habitants ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour l'instant, explique le maire de Jérémie au Washington Post.
Merci Arim Nipol, on vous retrouve dans quelques instants pour la suite de la revue de presse. Et nous sommes en direct cet après-midi avec Frédéric Thomas, docteur en sciences politiques, chercheur au CETRI et auteur du livre « L'échec humanitaire est haïtien ». Frédéric Thomas, bonjour.
Bonjour.
Haïti a donc de nouveau été frappé par un séisme ce samedi. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas étonnant. Le pays est sur une faille sismique. Ce qui n'est pas normal, en revanche, c'est que les Haïtiens continuent à chaque fois de payer le prix fort. Pourquoi ?
Mais parce que le séisme n'est peut-être moins en lui-même la catastrophe que la démonstration d'une catastrophe sociale et politique qui le précédait et qui explique que ce tremblement de terre aurait fait beaucoup moins de victimes à Cuba, en République dominicaine, dans les pays limitrophes, fait énormément de débats et types, or, du fait de l'absence de politique publique de santé, de politique de prévention, l'état délétère des infrastructures de santé, l'absence d'abri, l'absence véritablement d'institutions publiques qui prendraient en main cette vulnérabilité dans laquelle le pays se trouve.
Alors, nous sommes presque 11 ans après le séisme de 2010 qui avait causé la mort de 200 000 Haïtiens. Il y a eu de l'argent donné par la communauté internationale. Où est-il passé ?
Mais cet argent a très largement répondu aux effets immédiats du séisme et non à ses causes structurelles. Donc, il a répondu en soignant les blessés, en construisant des abris temporaires, en répondant à l'urgence et non pas aux causes sociales qui expliquent aussi pourquoi il y a eu de tels dégâts, si bien que 10 ans, 11 ans après, le pays se trouve dans une situation toujours aussi vulnérable et dépendante et que les Haïtiens sont fatigués d'être enfermés dans ce cycle de catastrophes et de crises.
Une situation toujours vulnérable. Quelle est la responsabilité de la classe politique haïtienne ?
Bon, elle est énorme. Bon, de fait, Haïti est sur le dernier pays les plus affectés par le réchauffement climatique. Il est sur la route des cyclones. Il est sur une faille sismique, si bien qu'il est affecté en moyenne tous les 2-3 ans par une catastrophe naturelle de grande ampleur. Mais ça n'empêche que la classe politique porte une énorme responsabilité dans la mesure où elle a accaparé toutes les ressources, elle a privatisé l'ensemble des institutions publiques, elle a tourné le dos aux besoins de la population en ne s'intéressant l'impression que à ses propres intérêts et en accroissant l'appauvrissement de la population, les inégalités, elle a véritablement désarmé les institutions pour répondre à ces catastrophes.
On le voit notamment avec la gestion des moyens de transport pour acheminer les secours.
Oui, parce que l'État haïtien ne dispose que d'un hélicoptère. Il est obligé de recourir à des avions, des hélicoptères du secteur privé ou de politique ou d'appeler à l'aide internationale. Il n'y avait véritablement rien pour accéder au sud du pays qui, de fait, avait déjà été coupé depuis début juin en raison de l'insécurité, de l'exaction des bandes armées dans Port-au-Prince.
Est-ce que la crise politique traversée actuellement par Haïti après l'assassinat du président Moïse peut aggraver la gestion des secours?
Oui, bien sûr, elle va affecter toute la chaîne et globalement l'efficacité de ces secours en termes de rapidité, en termes de défiance envers et l'État haïtien. La population n'a pas confiance dans l'État haïtien. Elle montre aussi une grande défiance envers les acteurs internationaux et aussi une grande défiance envers l'instrumentalisation de cette aide par l'État comme les acteurs internationaux afin de donner une image positive de leur action plutôt que de répondre aux besoins et aux revendications de la population.
Quel rôle donc doit jouer la communauté internationale selon vous ?
Mais elle doit surtout et d'abord ne pas répéter les fautes de 2010 et donc d'abord appuyer les organisations locales qui sont en première ligne, qui sont celles qui sauvent le plus de vies. Ensuite, elles doivent contribuer à répondre aux causes de cette catastrophe plutôt qu'à leurs effets immédiats. Et enfin, ne pas instrumentaliser cette aide pour en essayant de se donner une image positive à bon compte et occulter la crise politique et l'impasse dans laquelle se situe le pays et dans lequel elles ont une lourde responsabilité et qui explique, encore une fois, la vulnérabilité du pays par rapport à des catastrophes naturelles.
Je vous remercie, Frédéric Thomas, d'avoir été en direct avec nous sur RFI. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques et chercheur au CETRI, auteur du livre « L'échec humanitaire est haïtien ». Je reviens vers vous, Arim Lipold, pour la suite de la revue de presse et le nouveau séisme en Haïti qui mobilise la diaspora, à commencer celle qui est la plus proche du pays, la communauté haïtienne de Miami.
Oui, selon le Miami Herald, journal de Floride, les associations sociales et religieuses ont commencé à récolter de l'argent pour acheter des biens et du matériel en fonction des besoins sur place. Les associations travaillent en étroite collaboration avec des équipes de secours sur place justement pour coordonner l'acheminement de l'aide, mais qui est difficile, on l'a entendu, selon le Miami Herald.
Et la communauté internationale s'active aussi. Stéphanie Schuller, les premiers avions humanitaires arrivent depuis hier soir à Port-au-Prince.
Oui, une équipe de 65 sauveteurs professionnels de l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, est arrivée en Haïti hier avec dans ses bagages 25 000 kilos de médicaments et de matériel technique. Les avions d'aide envoyés par le Venezuela, la Colombie ou encore la République dominicaine voisine ont également atterri dans la nuit sur le tarmac de l'aéroport international à Port-au-Prince. Toutes ces livraisons ont été réceptionnées par les équipes de la protection civile haïtienne qui sera en charge d'organiser la distribution. Le gouvernement provisoire d'Haïti se veut d'ailleurs rassurant. Il explique que les erreurs commises après le séisme de 2010 ne se reproduiront pas et promet une organisation cohérente entre les organisations internationales et les autorités haïtiennes. De son côté, le bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, l'OCHA, a tenu hier une conférence téléphonique entre les différents acteurs humanitaires présents en Haïti. L'objectif affiché, là encore, une meilleure coordination de l'aide humanitaire pour ne pas répéter le chaos de 2010.
Alors, l'autre fait à signaler, Stéphanie, les secouristes ont commencé l'évacuation des blessés les plus graves.
Absolument, et ce sont notamment des hélicoptères des gardes-côtes américains qui assurent ces rotations. Ils amènent des médecins et des équipements depuis Port-au-Prince, dans les zones sinistrées. Et sur le retour, ils évacuent les blessés graves pour que ceux-ci puissent être pris en charge dans les hôpitaux de la capitale haïtienne qui se sont d'ailleurs exprès préparés à cet effet.
Mais à Rimlipald, la difficulté, c'est l'accès aux régions sinistrées.
Oui, exactement. C'est ce que souligne aussi la presse américaine, à l'instar du Miami Herald. La Maison Blanche écrit, le Miami Herald estime que l'acheminement de l'aide est très compliqué, d'abord parce que des routes sont endommagées et aussi parce qu'elles sont bloquées par des gangs armés, notamment dans le quartier de Martisson à Port-au-Prince. Une opération humanitaire dont le pays pourrait nécessiter la sécurisation par l'armée, mais jusqu'à présent, les États-Unis ne souhaitent pas envoyer des soldats en Haïti. Le gouvernement étudie la possibilité d'envoyer de l'aide par voie aérienne, mais cela suppose des infrastructures sur place qui sont elles aussi limitées, d'après une responsable USAID citée par le Miami Herald.
Et en tout cas, quel que soit l'effort déployé par les États-Unis, il ne sera pas aussi important que lors du séisme en 2010.
Oui, la question que beaucoup d'Haïtiens se posent à juste titre, explique un expert de la région dans le Miami Herald, c'est de savoir si l'opération humanitaire sera différente de celle d'il y a 11 ans, qui n'a pas vraiment, dit-il, préparé le pays à faire face à ce genre de catastrophe. De toute façon, conclut le journal, l'attention des États-Unis étant en ce moment concentrée sur l'Afghanistan, Haïti n'est pas vraiment une priorité pour l'administration Biden.
Merci à Rémi Nipold et merci à Stéphanie Schuller.
Le journal de l'Outre-mer.
Le journal des Outre-mer présenté avec par Benoît Ferrand et la Martinique qui commémore aujourd'hui le 16e anniversaire du crash d'un avion de la West Caribbean au Venezuela.
C'était le 16 août 2005, un crash qui avait fait 160 victimes, dont 152 Martiniquais. 16 ans plus tard, pas de grande célébration ce lundi, crise sanitaire oblige, mais l'occasion de faire le point sur les interminables suites judiciaires de ce drame. Écoutez la présidente de l'association des victimes, Rosemary Taupin-Pélican. Elle a été jointe par Fabrice Théodose.
Cela fait bientôt plus de 2 ans que nous sommes en attente d'un complément d'expertise ordonné par la Chambre de l'instruction. Nous avons rendu notre rapport depuis belle lurette et nous attendons que le tribunal nous donne la suite. Alors espérons qu'avec le temps viendra la sagesse et que ces messieurs comprendront qu'il faut dire la vérité, la stricte vérité aux familles. La vérité, elle tarde à venir parce qu'en fait, elle dérange. Et pourquoi elle dérange? Parce qu'en fait, reconnaître qu'il y a eu des erreurs, ne serait-ce que pour donner une autorisation de vol à une compagnie comme celle que nous avons découvert depuis la West Caribbean, c'est reconnaître en fait le tort de la DGAC, donc de l'État français. Et comme l'État français ne peut pas se tirer une balle dans les pieds, alors on préfère nous dire que c'est la faute exclusive des pilotes. Donc j'ai fait un raccourci, mais globalement, c'est ça l'histoire.
On reste en Martinique avec l'Université populaire et de prévention qui appelle les pays de la Caraïbe à adopter une stratégie de prévention en cohérence avec le niveau de risque. On vient de le voir, hélas, séisme, tempête, niveau de risque élevé dans la Caraïbe. Albéric Marcelin, le président de l'UPP, rappelle d'ailleurs qu'il existe un plan séisme Antilles allant jusqu'en 2026.
Il y a un plan séisme Antilles là, qui vient d'être bâti. 2021-2026, sur 5 ans, 1 milliard d'euros pour la Martinique et pour la Guadeloupe, les deux ensemble, eh bien, il faut qu'on y aille maintenant. On n'a pas le choix. À la lumière de ce qui se passe en Haïti, il faut faire démarrer tous les dossiers. Il faut que la DEA, il faut que le BRGM, il faut que la CTM, il faut que les services de l'État, il faut que tous les corps constitués se mettent ensemble et puis que ce dossier-là démarre. Parce que sur le plan séisme numéro 2, il n'y a pas de grand-chose qui a été réalisé, malgré les 456 millions d'euros que l'État avait mis à disposition. Donc là, Haïti nous rappelle encore une fois la nécessité pour nous de nous préparer et de mettre en place une série de choses. La médecine de catastrophe aussi, c'est un grand dossier, et tuer la fragilité de nos hôpitaux face aux risques sismiques. On n'a pas le choix.
Bon après-midi, Mayeul. À demain.
Merci, Benoît Ferrand. C'est la fin de cette édition spéciale Haïti. Je vous rappelle le bilan du séisme qui a frappé samedi. Le bilan provisoire, 1300 personnes sont mortes après le séisme qui a frappé l'île samedi.
RFI, la sélection du mois.
Tu m'as fait... Joanne Papa Constantino.
Encore sur les doigts, j'ai trop travaillé, tata. Tu me diras si j'ai le droit.
Malik Judy et Lala.
RFI. Si vous pensez que notre